t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre parole aux auditeurs. Dans le cadre du programme de développement urbain des quelques villes de la RDC piloté par le ministère de l'Urbanisme et Habitat et pour faire face aux effets du volcan Niragongo, il a été proposé la possibilité de l'extension de la ville de Goma dans l'avenir vers deux grands espaces, notamment Sake 2 et Sake 3, situés au nord des Sake 1 existants, capables d'accueillir dans l'immédiat 57 617 familles et qui offrent des potentialités de vie et ville harmonieuse. Les experts de l'ISAU ont proposé un plan de base, un programme d'action prioritaire et une typologie de construction parasismique pour les nouveaux sites ciblés, tenant compte des contraintes physiques et de la présence des volcans actifs dans la ville de Goma. Que pensez-vous de ce projet et quel pourrait être le préalable pour sa réalisation? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en onde par Polydor Basunga. Jocelyne Mukendi assure la réalisation et quant à moi Pierrot et la Mégis, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégis.
Et pour faire les points sur cette possibilité de l'extension de la ville de Goma vers d'autres sites pour faire face aux problèmes de volcans, nous l'avons déjà promis, nous l'avions promis la semaine passée, nous nous retrouvons encore avec vous. Et en ligne, nous avons Monsieur Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur du Nord Kivu, ancien administrateur des territoires de l'Ubero, je crois bien. Monsieur Julien Paloukou, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors, vous avez séjourné à Goma pendant cette période de la catastrophe du volcan Niragongo. Plusieurs actions ont été déjà menées, mais dans l'avenir, il y a cette réflexion autour de l'extension de la ville de Goma. Cela a été discuté plusieurs fois. Ça a été aussi proposé dans un forum ici à Kinshasa sur le développement urbain. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui qu'on ait l'extension de la ville de Goma?
Oui, d'abord, je dois préciser que je n'interviens pas ici comme porte-parole du gouvernement parce que le dossier n'a jamais été traité à Conseil des ministres. Mmh. Et même s'il était traité à Conseil des ministres, nous avons un porte-parole. Donc, je vais m'efforcer de faire un exercice intellectuel comme tout le monde. Donc, je ne donne pas le point de vue officiel du gouvernement. C'est une précision de taille. Mmh. Oui. Alors, nous avons été à Goma pendant 18 jours. Nous avons vécu la catastrophe. Nous avons vécu les tremblements de terre. Nous avons subi, au même titre que la population, les affres de cette catastrophe. Et effectivement, il se développe des idées pour dire est-ce que doit-on délocaliser la ville de Goma pour ailleurs. Bon, d'abord, je dois préciser que Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mmh. Pour qu'un chef-lieu soit transféré vers un autre, si j'ai bonne mémoire de nos textes juridiques, il faut quand même une décision qui émane de l'Assemblée nationale. Des deux, si on doit délocaliser la ville de Goma, il faut qu'on choisisse une autre ville. Et vous savez qu'au terme de la loi qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, une loi de 2008, c'est une loi organique, n'est reconnue comme ville soit une agglomération qui a plus de 100 000 habitants, soit un chef-lieu de province. Or, déjà au nord Kivu, nous avons la ville de Beni, la ville de Butembo et la ville de Goma, auquel on a ajouté par un décret du premier ministre, la ville de Kirumba, c'est au centre de Lubero, la ville de Rutshuru, hein, ce sont là les villes qui sont connues. Donc la province Nord Kivu aura 5 villes. Mm-hmm. Mais il est clairement indiqué que toute ville ou toute agglomération érigée en ville doit avoir des équipements collectifs, des infrastructures économiques qui permettent effectivement le fonctionnement de cette ville-là. Alors, la question de dire, bon, où est-ce qu'on doit amener la ville de Goma. Est-ce que c'est opportun ou pas? Cela soulève la question de la fréquence des éruptions volcaniques. Je l'ai bien dit dans une de vos émissions spécialisées. L'éruption volcanique connue date de 1922. L'autre, c'est de 1977, après à peu près 55 ans. La troisième, c'est en 2002, après 25 ans. La quatrième, c'est en 2021, après 19 ans. Donc, lorsqu'on voit la fréquence de la survenue des éruptions volcaniques, on est dans une moyenne de 25-30 ans pour qu'une autre éruption volcanique arrive. Ça veut dire, comme celle-ci s'est produite en 2021, si on prend la fréquence de 25 ans, donc on attendrait probablement une prochaine éruption en 2046. Alors, les spécialistes doivent nous dire exactement si, avec les différentes coulées de lave, il sera possible que dans les 25 ans ou dans les 50 ans, il y ait encore une autre éruption. C'est donc de la décision des spécialistes de l'Observatoire volcanologique de Goma que doit découler la décision de délocaliser ou pas la ville de Goma. Je donne une dernière hypothèse. Comme on a fait, je crois, au Nigeria, il y a la ville d'Abuja, il y a Lagos. Comme on a fait en Côte d'Ivoire, il y a Yamoussoukro, il y a Abidjan. Comme ça s'est fait actuellement en Égypte, il y a Caire et New Caire, c'est la nouvelle capitale. On peut réfléchir par rapport à une ville qui serait probablement le chef-lieu de la province, sans nécessairement qu'on mette fin à Goma. C'est-à-dire, l'autorité centrale peut décider d'ériger en chef-lieu de province une autre ville ou une autre agglomération. Goma reste comme une capitale économique provinciale de la province et la capitale politique est transférée ailleurs. Dans ces conditions, il faut que l'État puisse y construire les bâtiments administratifs, à savoir le gouvernement provincial, l'assemblée provinciale, toutes les infrastructures, les égouts, l'évacuation des eaux. Et lorsque j'ai vu le budget de l'érection de la nouvelle ville du Caire, c'est quand même 13 milliards de dollars. Et donc, je ne sais pas si notre pays qui a un budget de 5 milliards peut avoir des ressources pour construire une nouvelle ville à la dimension des villes, pour que l'on puisse délocaliser. Donc voilà un petit exercice intellectuel que j'ai fait pour montrer combien la décision, elle est bonne, mais est-ce qu'elle est opportune, est-ce qu'elle est faisable? Ce sont là les quelques interrogations que tout le monde peut se poser.
Alors, vous êtes vraiment les témoins de l'expansion de la ville de Goma. Vous avez vécu sur place, administrateur des territoires, gouverneur des provinces. On est parti des autant. Aujourd'hui, on est à 1 500 000 habitants. Vous l'avez dit dans une autre émission. Mais il y a aussi cette question démographique. C'est peut-être là aussi qu'il faut baser la réflexion. Vous voyez vous-même la dimension de la ville de Goma. Et quand on regarde le développement démographique de notre population, c'est la même chose. Peut-être 30 ans après, vers 2046, on peut avoir le double de la population. Va-t-elle convenir dans l'espace actuel, tout en tenant compte aussi du périmètre du volcan? Ce sont des éléments comme ça qu'on peut prendre en compte dans cette réflexion, parce que vous avez géré le Nord Kivu et la ville de Goma particulièrement.
Oui, il est vrai que les taux de croissance démographique dans notre pays se situent autour de 3,5 ans. Ça veut dire qu'en 15-20 ans, effectivement, la population peut doubler. Et il est possible que pour la ville de Goma, qui a 1 500 000 habitants, peut, en 2046 ou en 2050, avoir 3 millions d'habitants. Et c'est pourquoi j'ai aimé, effectivement, le terme que vous avez utilisé, l'extension de la ville de Goma. Je crois que ce terme-là peut convenir au lieu de la délocalisation de la ville de Goma.
Exactement. Dans le débat, nous avons plus pris en compte l'extension plutôt que la délocalisation, c'est ça?
Exactement. L'extension de la ville de Goma est possible, mais la proposition qui a été soulevée, bon, ayant géré la province du Nord Kivu, je voudrais pas être totalement d'accord avec la proposition d'étendre la ville de Goma à Sake, parce que lorsque vous voyez dans les scénarios de coulées de lave de 1977 ou de 2002 ou d'autres coulées de lave intermédiaires qui ont découlé du volcan Nyamulagira, ça qui a toujours été dans la cible des prochaines coulées de lave. Et donc, étendre la ville de Goma vers Sake, parce que Sake est aussi construite sur la lave volcanique. Donc, ça veut dire que la coulée de lave y a déjà été dans une des périodes de l'histoire. Et donc, étendre la ville de Goma pour venir la construire à Sake, avec possibilité que cette ville soit un jour aussi décimée, ce serait presque ne rien faire. Donc, la possibilité qui serait peut-être la bonne, c'était soit de la transposer comme extension vers Rutshuru, qui est la ville la plus proche, ou carrément reconstruire la ville de Rutshuru parce qu'elle est déjà créée par un décret du Premier ministre.
Okay.
Et là, la population aura maintenant le choix d'habiter cette ville de Rutshuru ou de rester à Goma. Et peut-être pour attirer la population à pouvoir habiter la ville de Rutshuru, le gouvernement peut décider de délocaliser les institutions provinciales, c'est-à-dire le gouvernement provincial, l'assemblée provinciale. Vous savez que ce sont là les deux institutions qui attirent presque la population. Lorsque le gouverneur, lorsque le président de l'assemblée, lorsque les députés vont habiter dans un lieu, eh bien, leurs familles, les collaborateurs, les assistants et tous ceux qui suivent les institutions provinciales vont devoir les suivre partout où ils seront. Encore là, faut-il que je précise que ce n'est pas une décision facile. Parce que même pour créer une nouvelle ville, le Premier ministre à lui seul ne peut pas le faire par décret présidentiel, par décret du Premier ministre. Il le fait après avis préalable de l'Assemblée provinciale. Vous savez qu'à travers la République, il y a beaucoup de villes et de communes qui posent problème parce qu'ils ont été créés par un décret du Premier ministre sans avis favorable de l'Assemblée provinciale. Ce sont donc là des grandes questions qui doivent constituer des préalables à toute érection d'une agglomération en ville. Donc, je peux être favorable à l'extension de la ville de Goma vers un autre endroit, mais à la seule condition que le gouvernement de la République il crée les conditions d'une ville pour que l'attraction de la population se fasse, pour que les institutions provinciales s'y installent et que peut-être cela favorise des glissements de la population vers cet endroit-là, sans mettre fin à la ville de Goma, parce que comme je le disais dans une des émissions, la spécificité de Goma, c'est effectivement la menace permanente. Je le disais que la population de cette partie de la République, par le fait qu'elle sache qu'elle est sous une menace permanente, elle développe des capacités d'adaptation à la menace. Demain ou après-demain, deux ans plus tard, si vous passez à Goma, la partie qui a été calcinée par le volcan, vous ne saurez plus que cette partie a été l'objet d'une éruption volcanique. Parce qu'ils vont développer des mécanismes locaux, d'organisation pour reconstruire très rapidement. Et pour la population de Goma, 25 ans ou 30 ans, c'est déjà suffisant pour que quelqu'un puisse amortir ce qu'il a investi. Ce sont des réflexions qui se développent malheureusement comme ça, mais un gouvernement, lui, ne peut pas exposer sa population parce qu'elle a une capacité d'adaptation à la menace. Mais je voudrais simplement donner cette idée pour vous dire comment les gens vivent avec la menace. C'est, au Japon, ça se passe, en Italie, ça se passe, ce sont des pays qui ont aussi sous menace des volcans. Mais les villes cohabitent avec les volcans et les gens savent quand les volcans arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils doivent reconstruire leurs infrastructures.
Voilà, c'est vraiment le débat, il est assez intéressant. Il est sur les plans économiques, sécuritaires, juridiques, sociaux même, parce que là, je vois aussi quelques internautes, par exemple Patrick Mahamba qui nous écrit des Goma. Il dit, moi je ne peux pas fuir les Niragongo, plutôt il faut trouver des mécanismes pour contourner ces effets et vivre avec. Voilà ce qu'il lui propose. Mais plutôt, il y a Faustin Batey-Luondo aussi qui est à Goma. Lui, il estime qu'on peut faire une réflexion liée seulement à certains quartiers qui sont peut-être plus exposés. Et ce sont ces quartiers hein, pour lesquels on devra réfléchir dans les temps pour trouver où est-ce qu'on peut les installer, mais pas toute la ville. Le débat, il est vraiment intéressant sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alors, il y a aussi autant d'auditeurs au niveau de notre standard. On va leur accorder la parole 081-800-90-49-69 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Jérémy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Lubumbashi. Le débat, il est assez intéressant sur ce qu'on doit faire dans l'avenir, hein, sur cette question d'extendre la ville de Goma. Vous avez suivi, hein, Monsieur Julien Paluku, notre invité, qui a posé les bases de cette réflexion. Jérémy, bonjour. Et quel est votre point de vue?
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour également à son Excellence le ministre. Je pense que cette réflexion, hein, de l'extension de la ville de Goma est un geste salué, certes, parce que, vous savez, lorsque nous on évoquait le problème de délocalisation, nous pensons que c'était vraiment très dur, hein, et je pense que l'extension vaudra mieux que donc la délocalisation. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, lorsqu'il y a en même temps extension, ça peut aussi amener à ce que dans les registres, hein, des urbanisations, donc c'est-à-dire de urbanisme et habitat, donc dans les cadres là, normes urbanistiques, on puisse un peu corriger certaines choses. Vous savez, il se souviendra que c'est ainsi que j'avais parlé autrefois lorsque j'ai intervenu pour dire que, vous savez, il fallait qu'il y ait une étude de faisabilité sur le terrain. On doit étudier réellement par les topographes pour voir est-ce qu'il est faisable que la population reste sur ce coin le plus longtemps possible. Et là, il reviendrait aussi, n'est-ce pas, à ces mêmes spécialistes d'évoquer, par exemple, donc l'alternative de l'extension, qui est juste une bonne chose parce que elle va permettre à ce que la ville de Goma soit désengorgée sur tout ce qui a trait à l'envahissement de l'éruption volcanique pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre les choses en ordre, parce que là, ça nécessite encore, ça crée encore ce débat qui parle sur les conditions dans lesquelles on essaie un peu de construire. C'est ce qui laisse trop à désirer. Je pense que il n'est pas question seulement de parler de Goma, même presque toute ville de la République démocratique du Congo, presque dans l'ensemble, pose les mêmes problèmes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents que nous enregistrons au jour d'aujourd'hui parce que tout simplement, on a tenu compte de toutes les conditions, donc on n'a pas tenu compte des normes urbanistiques, n'est-ce pas, causer du tort à la population parce que, vous savez, on a besoin de la population. On a besoin de cette population-là et à ce moment-là, il fallait que les gouvernements qui définissent la politique générale du pays puissent maintenant réfléchir là-dessus avec les spécialistes pour pouvoir, n'est-ce pas, on vient de voir les cas qui viennent de surgir, de survenir au niveau de Goma. C'est à ce moment-là qu'on peut maintenant prendre les choses donc à bras le corps pour pouvoir étudier à fond, minutieusement, cette question pour étendre, n'est-ce pas, cette ville de Goma, n'est-ce pas, en trois sites comme il a été évoqué. Ce serait un geste salutaire, mais à ce moment-là, je me dis, il fallait maintenant qu'on y descende de ce terrain, qu'on voit, parce qu'on ne doit pas extendre la ville par les prétextes de le faire. Il faut qu'on étudie, on essaye d'élargir, donc, c'est-à-dire la conception à la longueur des jours, à la longueur des années.
Et là, Jérémy, vous posez un problème de fond. Vous dites qu'il faut d'abord commencer par des études scientifiques qui doivent confirmer si exactement il y a besoin de l'extension de la ville. Et la deuxième chose pour vous, c'est d'abord en deux. La nouvelle ville, il faut, comme l'invité le disait tout à l'heure, qui est ça qui est aussi dans le même problème des cibles de la lave. Ça dit que s'il faut, quels sont les types de constructions? Et même pour la ville de Goma, quels sont les types de constructions aujourd'hui qui doivent être adaptées parce qu'il y a eu des problèmes de séisme? Et tout ça, ça doit se faire vraiment en prenant compte tous les paramètres scientifiques avec des experts. Merci beaucoup, hein, Jérémy. Merci de ces points de vue. Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à toute l'équipe de la radio Capi et à toute l'équipe de la parole aux auditeurs, madame Jocelyne et Polydor Bassonga.
On vous écoute.
La délocalisation progressive, soit l'extension de la ville de Goma, est l'une des mesures préventives pour empêcher le pire dû à l'éruption volcanique de Nyiragongo et d'autres volcans autour de celui-ci, présentant des risques qui pourront être graves que cela récemment subi par les Gomatraciens, surtout dans cette cruciale période que le pays n'est jamais connu, l'initiative étant bonne, interpellant la conscience de tout un chacun pour sa matérialisation, car au lieu d'attendre amener des fleurs funèbres pour quelqu'un, le meilleur et fraternelle d'apporter le médicament pour qu'il soit guéri. C'est maintenant ou jamais pour tout un chacun d'amener un petit rien pour bien compatir et prévenir les risques à nos confrères et frères et consoeurs de Goma. Quant à ces.
Merci beaucoup, Mwanda. Vous estimez qu'il faut déjà réfléchir maintenant pour éviter peut-être que demain on tombe encore dans la même situation. Et là, d'ailleurs, vous avez rejoint ce que notre invité disait tout à l'heure, qu'il faut des études spécifiques pour savoir quelle est la vraie décision, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour l'extension. Mais j'insiste encore, nous avions déjà eu les débats sur la proposition de la délocalisation, mais aujourd'hui la réflexion tourne autour de l'extension de la ville de Goma, et nous accordons la parole à Maître Edmond qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Maître Edmond.
Bonjour Maître Pierrot, bonjour à tous les auditeurs, bonjour également à l'invité.
Vous avez suivi ces débats, cette possibilité d'extendre la ville de Goma et les descriptions de notre invité. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Moi, en ce qui me concerne, je pense que cette idée, ce projet, c'est un bon projet, il faut le louer, parce que les villes doivent toujours être étendues de cette manière, surtout la ville de Goma. Et malheureusement, je n'ai pas la géographie de la ville, je n'ai jamais été dans la ville, mais je pense que avant de pouvoir étendre la ville, il aura fallu, moi, je voulais m'appeler plus sur l'aspect sécuritaire. Parce que chaque fois, nous qui sommes de l'Équateur, par exemple, nous avons toujours suivi, il y a des incursions, il y a des miliciens, il y a des groupes armés qui ont fait incursion et consort, et cet aspect des choses nous inquiète. Moi, je pense que si aujourd'hui le gouvernement central ou le gouvernement provincial décide d'étendre la ville vers Saké 1, Saké 2 et consort, moi, je pense que parmi les préalables, il aura fallu d'abord étudier sensiblement la question sur la sécurité. La question sur la sécurité, ça tombe bien comme il y a un état de siège au nord, nord-Kiv, ça tombe bien. Il aura fallu d'abord étudier, d'abord essayer d'éradiquer les miliciens, les groupes armés, tous ceux qui peuvent causer la désolation à la population, et à s'assurer que lorsque la ville sera étendue dans les lieux où il y aura l'extension de la ville, à Saké 1, Saké 2, il n'y aura pas des incursions comme on a toujours connu dans les jours passés. Voilà, c'est vraiment la majeure inquiétude qui est en train de nous angoisser, c'est la sécurité. Parce que lorsque nous étions dans la ville de Goma en soi, il y a des militaires qui entraient jusqu'à Goma. Et lorsqu'on va étendre, vous voyez, ça risque encore de faciliter les incursions et que nos amis, nos frères et sœurs seront toujours menacés. Ils ne vont pas vivre en toute inquiétude en dépit de cette extension de la ville de Goma.
Merci beaucoup Edmond. Vous posez la question du préalable sécuritaire. Vous estimez que si jamais on décide de pouvoir extendre la ville vers une autre partie de la province du Nord Kivu, il faut tenir compte des contraintes sécuritaires et ça c'est un élément important. Nous allons à Goma, sur place où nous appelle Pierre qui est dans la ville de Goma. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, bonjour à l'invité.
Voilà, nous réfléchissons autour de la possibilité de l'extension. Vous avez suivi la réflexion qui a été menée ici à Kinshasa. Les experts estimaient qu'on pouvait étendre une partie de la ville vers Saké 1, Saké 2, Saké 3. Vous connaissez peut-être la cartographie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible de le faire et quels pourraient être pour vous les préalables si jamais le gouvernement pouvait matérialiser ces souhaits?
Merci beaucoup de m'avoir associé d'abord à ce débat. Moi, je dirais que ce projet d'accroître la ville de Goma vers Saké 2 et Saké 3 au nord de Saké 1 est louable car une fois la réussite de cela permettra d'épargner une partie de la population de la ville de Goma et celle du territoire de Nyiragongo du danger en cas d'une éruption sur la terre. Avec 5 à 7 617 familles, c'est un bon nombre de la population qui peut être écartée d'abord du danger. Monsieur Pierrot, dans notre pays, nous avons problème avec notre gouvernement qui souffre, nous présente des bons projets, encourage vite à besogne, mais sans tenir compte de plusieurs difficultés qu'il fait face et qu'il doit résoudre en premier. Prenons l'exemple de la sécurité, comme vient de le dire Maître Edmond Bokolo. une sécurité totale dans cette partie du pays. Et beaucoup d'entre nous quittent les villages entourant la ville de Goma pour venir chercher refuge dans cette ville. Les problèmes de sécurité sont toujours là. En plus, nous avons plus de 2000 ménages victimes de ces volcans qui attendent que le gouvernement construise leurs maisons endommagées et ensevelies par les laves. Et selon les informations que nous avons à notre position, donc que cette population doit être délocalisée vers un autre endroit. J'ai l'impression que c'est parmi ces deux endroits cités. À part ça, l'exploitation du gaz méthane se trouve dans le lac Kivu, qui d'ailleurs, selon moi, c'est un danger de plus que le volcan découlé des laves. C'est très dangereux. Je rappelle qu'avec le ministre et le gouvernement Ilukamba, le ministre à l'époque de l'hydrocarbure, M. Ribes Mikindo, avait passé à Goma deux fois en disant que tout est mis en marche pour débuter avec les travaux. Et jusqu'ici, nous ne voyons rien comme travaux sur place. Donc, moi je pense que le gouvernement doit chercher d'abord des moyens financiers suffisants pour la réussite de ce projet. Et moi je dirais que c'est un projet à long terme qui ne sera pas réalisé aujourd'hui ou demain. Et d'ailleurs, ces endroits qu'ils ont cités, ça que c'est à 20 km de la ville de Goma, si ce n'est pas 25, c'est à 20 km et au nord, c'est tout proche toujours du volcan. C'est pas très loin de la ville. Il y a des difficultés que notre gouvernement a pour réaliser ces projets. À moins que les banques mondiales, comme nous sommes habitués, vont venir toujours financer. Moi, je suis vraiment pessimiste à ce point-là. Je pense qu'à part les financements, je ne comprends pas comment le gouvernement, qui n'a pas pu arriver à payer les agents de l'OVG pendant 3 mois et leur fournir des moyens qui pouvaient permettre à cette institution chargée de faire suivi et surveillance du volcan pendant 7 mois, sera à mesure d'étendre la ville.
Oui, Pierre, mais comme ça s'inscrit dans l'avenir, rappelons que c'est une réflexion, on estime, qui est dans l'avenir, on peut arriver à le faire. Si jamais il y a des moyens, ça peut être fait. Mais quant au dossier, vous êtes revenu sur la question de l'insécurité, par exemple, c'est un paramètre que Maître Edmond disait tout à l'heure qu'il faut considérer. Vous avez aussi évoqué des problèmes urgents comme la gestion du gaz au niveau du lac. Mais nous nous inscrivons dans l'avenir. Est-ce que c'est possible de pouvoir le faire? Mais à un moment, vous l'avez aussi dit, les dangers ne vont pas être écartés parce que au nord du Sake, les mêmes problèmes vont encore se poser. C'est non loin du volcan. De 081-890-4969, nous allons revenir maintenant à notre invité pour commenter les points de vue des auditeurs. Mais je rappelle encore que nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux Auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alors, nous revenons à vous, Monsieur Julien Paloukou. Vous avez suivi les commentaires, mais même quand on regarde aussi les débats sur la page Facebook, beaucoup reviennent sur la question des études de faisabilité qui doivent précéder une possible extension de la ville de Goma. Votre réaction par rapport à ce qui a été dit aussi sur les antennes par les différents intervenants?
Oui, je salue Monsieur Jérémy, Monsieur Emina de Bukavu, je crois Maître Edmond de Mbandaka et Pierre de Goma. On sent tous que il y a une menace. Mais je voudrais ici préciser, par rapport à la menace qui pèse sur Goma, qu'il y a deux types de menaces. Le premier type, c'est effectivement l'éruption volcanique. Mais l'éruption volcanique, lorsque elle aura lieu probablement un jour, elle ne pourrait pas décimer toute la ville de Goma en entièreté. Les experts ont dit dérouler le scénario des coulées de lave. C'est la raison pour laquelle, lorsque le gouverneur militaire a demandé à la population de quitter la ville, Il a parlé de 10 quartiers. Mm-hmm. C'est-à-dire, les experts avaient déjà ciblé qu'il y a 10 quartiers probables qui seraient la cible de la prochaine coulée de lave, pas toute la ville de Goma. Ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est effectivement les gaz carboniques, pas les gaz méthane, parce que dans le lac Kivu, il y a deux types de gaz. Les gaz méthane, c'est une potentialité utile pour la production de l'électricité. Par contre, les gaz carboniques, qui est le COD, qui est dans la grande partie du lac Kivu, à une profondeur de plus de 70 mètres, et dans le golfe de Kabuno, le gaz méthane est déjà à 11 mètres presque à la surface. Selon les spécialistes, c'est ce gaz carbonique-là qui constitue la menace la plus grave. Et elle serait la menace la plus grave si les cônes qui se trouvent dans le lac Kivu sont les points d'éruption volcanique. Donc si l'éruption a lieu à l'intérieur du lac Kivu, ça va bouleverser les équilibres des eaux au niveau du lac. Et les COD, c'est-à-dire les gaz carboniques, qui est situé en profondeur, peut remonter à la surface. Mm-hmm. Et dans ces conditions-là, ça va asphyxier toute la population. Et de Goma, et de Gisenyi, et de Beremana, pour ceux qui connaissent la région, toute cette partie pourrait être asphyxiée, un peu comme ça a été le cas au Cameroun en 1986, dans le lac Nyoche. Mais cette probabilité ou cette hypothèse est parmi les hypothèses rares. Mais les spécialistes nous disent, ce qui est rare n'est pas interdit de se produire. Donc, même si c'est rare, un jour ça pourrait se produire. Voilà pourquoi les gens réfléchissent en termes d'extension de la ville de Goma, pas de délocalisation. Et là, j'ai donné mon point de vue par rapport à Sake en disant, par rapport à l'éruption volcanique, Sake n'est pas le milieu indiqué pour amener la population, étant donné qu'il est lui-même construit sur la lave volcanique. Mm-hmm. Et donc, les lieux les plus proches, si on doit réfléchir en termes de lieux les plus proches, ce serait probablement Rutshuru, Kiwanja. Et là, le gouvernement, comme il a déjà érigé cet espace en ville, peut décider d'y ériger la capitale politique de la province. Il y a aussi d'autres villes, notamment au centre de Lubero à Kirumba, notamment à Butembo, notamment à Beni. Mais il ne m'appartient pas à moi de dire le choix serait porté sur telle agglomération. Il faudrait que le gouvernement se décide à conseil des ministres pour dire, compte tenu de la menace qui pèse, eh bien, il faut ça et ça et ça. Maître Edmond a parlé des aspects sécuritaires pour dire, bon, à tout moment, la ville de Goma est en insécurité, il faut vraiment que l'on puisse sortir la population de là. Non, ça c'est la faiblesse de l'État.
C'est plutôt, s'il vous plaît, monsieur Julien Paloukou, plutôt il disait que chaque fois nous entendons dire que les populations qui sont dans les environs sont menacées par l'insécurité. Est-ce que le fait de pouvoir partir de la ville où il y a quand même assez la sécurité pour étendre la ville vers l'extérieur, est-ce que cela ne peut pas exposer la population? C'est ce que disait aussi tout à l'heure Pierre, que beaucoup de gens quittent les villages environnant la ville de Goma pour venir se réfugier dans la ville à la recherche de la sécurité. C'est un peu ça, c'était ça sa réflexion.
Oui, là je suis d'accord avec lui parce qu'il y a un célèbre penseur qui a dit que pour lutter contre l'exode rural, il faut créer la ville au village. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est de la responsabilité de l'État congolais, effectivement. Comme la ville de Goma est entourée de plusieurs territoires, notamment les territoires de Masisi, notamment les territoires de Rutshuru, et plus au nord, les territoires de Lubero, Beni, effectivement, à la suite de l'insécurité grandissante dans ces espaces-là, les gens ont tendance à venir se réfugier, entre guillemets, dans la seule ville qui est la ville de Goma, qui semble être en insécurité. C'est la même chose pour la ville de Butembo, pour la ville de Beni. Aujourd'hui, la ville de Beni est surpeuplée parce que beaucoup de gens quittent les territoires. Et donc, la responsabilité de l'État, et là je suis d'accord avec lui, c'est effectivement de créer des conditions qui permettent aux populations de se sentir en insécurité, même dans les milieux ruraux, de créer des conditions favorables. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les routes, pour empêcher que quelqu'un ne pense pas que venir dans une ville comme Goma, comme Butembo, comme Beni, c'est un luxe. Il faut que le gouvernement fasse en sorte que l'insécurité soit totalement banni dans le fin fond de la province du Nord Kivu, ça permettra à quelqu'un de rester même à Masisi, de rester à Walikale, de rester à Rutshuru, et parce que la route est bonne, parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il y a de l'eau, il peut prendre son taxi et aller à Goma et rentrer le soir. Donc je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure pour dire, pour lutter contre l'exode rural, il faut créer la ville au village, c'est-à-dire créer les conditions comme celles que les gens suivent dans la ville, notamment la sécurité, notamment les infrastructures qui sont en bon état, notamment l'eau, notamment l'électricité, notamment l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Ce sont là les éléments qui fondent effectivement les transferts des populations vers les milieux ruraux, vers les centres urbains qui constituent Goma, Butembo et Beni. Donc je suis totalement d'accord avec l'intervenant.
Il y a un internaute tout à l'heure qui disait que faudrait-il aujourd'hui organiser une grande conférence ouverte, vraiment, dans laquelle une grande réflexion doit être menée sur cette question avec des scientifiques, des topographes, comme le disait Jérémy tout à l'heure. Ça dit qu'en forme des états généraux, cette possibilité. D'ailleurs, lui est allé plus loin pour dire, c'est pas seulement d'ailleurs Goma, ça devait être aussi des grandes discussions comme ça sur l'ensemble de nos villes qui sont presque surpeuplées aujourd'hui.
Oui, moi je vais d'ailleurs peut-être améliorer sa réflexion pour dire, quand on parle de la ville de Goma, d'une conférence qui doit y être organisée, on ne peut pas le dire sans associer la ville voisine de Gisenyi. Parce que quand il y a eu la coulée des laves de 2021, et la partie rwandaise et la partie congolaise ont toutes deux été concernées. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à Goma, nous avions développé déjà des idées avec les ministres en charge de l'intégration régionale qui préparent un atelier qui va réunir tous les scientifiques de la région des Grands Lacs sur les mouvements sismiques et leurs effets sur nos populations. Donc cet atelier va réunir les Congolais, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, tous les spécialistes en matière de volcans, en matière de sismologie, qui vont réfléchir sur les impacts qu'auraient les prochains mouvements sismiques sur cet espace de la région des Grands Lacs et les décisions qu'ils peuvent proposer aux gouvernements respectifs et du Rwanda et de la RDC et de l'Ouganda et du Burundi par rapport à cela. Parce que les épicentres de tous les mouvements sismiques ne sont pas nécessairement situés à Goma. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, on peut localiser l'épicentre du tremblement de terre même au Burundi, même à Bukavu, même en Ouganda. Donc les spécialistes ont estimé qu'il faudrait que tous les spécialistes de ces quatre pays puissent se réunir et à l'issue de cet atelier régional, ils vont devoir proposer au gouvernement des mesures qu'il faut prendre. Et ça sera sous le pilotage du ministre en charge de l'intégration régionale avec qui nous avons discuté de cela et ça avait été adopté. Je crois qu'il ne lui reste qu'à le présenter à Conseil des ministres pour que ce soit adopté par le gouvernement congolais et dans le cadre régional parler à ses collègues pour que l'atelier soit organisé les tout prochains jours.
Alors on va écouter encore les auditeurs de l'autre côté du standard. Il y a Christian qui est ici à Kinshasa. Christian, merci. Je lisais tout à l'heure votre commentaire sur la page Facebook. Bonjour Christian.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
Alors on vous écoute Christian.
Derrière chaque situation ou certaines situations malheureuses, se cache un tremplin. Dixit, Christian Politas. Et donc, Pierrot, aujourd'hui, il ne fait l'ombre de aucun doute que l'éruption du Nyiragongo nous a démontré clairement la vraie valeur économique du gaz méthane du lac Kivu. Et donc, de ce fait, l'on ne peut, sans pour autant faire autant d'exercices pour aller chercher des moyens exploités, carrément fait que ces gaz nous proposent comme possibilité ou finance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'étendre justement la ville de Goma. Mais la question des moyens vont se poser encore et encore. Alors, moi, je crois que nous ne pouvons pas aujourd'hui penser mille et autres fois pour avoir ces moyens. Il suffit tout simplement de recourir à ce qui existe déjà, l'exploitation de ces gaz à bon escient. Donc cela revient à dire qu'il faudrait carrément orienter les fouilles de cette exploitation vers la construction même de la ville ou la construction et l'extension de la ville. Je crois qu'ici à Kinshasa, le camp Badiading a été construit, je crois, par l'INSS à l'époque ou encore quelque chose comme ça, grâce à l'argent que l'on avait récolté, et cela a servi la construction du camp Badiading. Et donc, Pierre Lamé, je crois qu'au-delà de la construction, ce qu'il faudrait faire pour éviter, n'est-ce pas, la construction anarchique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des grandes agglomérations du Congo sont construites de manière anarchique. Et en fait, les constructions laissent à désirer. il n'y a pas, en fait, les respect des normes urbanistiques et consorts. Moi, je crois qu'il faudrait maintenant laisser la possibilité à l'État congolais, n'est-ce pas, de construire lui-même cette extension. Et cette construction permettra aussi à l'État, non seulement de respecter les normes urbanistiques, mais aussi de lutter contre les constructions anarchiques et de construire, en fait, des bâtiments en normes qui vont répondre justement aux normes environnementales du coin. Parce qu'aujourd'hui, avec l'éruption du volcan ou encore le fait qu'il y ait le volcan, l'étendement des terres fait, cela demande vraiment des constructions qui s'adaptent, qui pourront justement résister même aux différents phénomènes qui pourront survenir. Et donc, moi, j'estime qu'il faut que l'État qu'on les construise, et cette construction pourra facilement permettre à l'État de nouer un contrat, n'est-ce pas, un contrat avec la population. Dans ces contrats, la population pourra payer une somme d'argent jusqu'à l'apurement duquel la population pourra devenir propriétaire de manière définitive, pourra avoir maintenant la possession de ces biens. Cela facilitera aussi à la population d'économiser le peu de moyens qu'il a, parce que bon nombre de populations ont perdu tout ce qu'ils avaient. Alors, ils n'auront pas la possibilité, même si l'État leur donnait la possibilité de construire, ils n'auront pas tous les moyens pour construire les bâtiments de leur choix, ou encore construire selon les normes. Alors, il faut vraiment que l'État pense sur cet état des choses afin de faciliter. Et cette politique, moi, je conseillerais à nos autorités d'étendre cette politique même dans des villes où il n'y a pas encore des événements malheureux qui se produisent. Il ne faut pas seulement attendre l'éruption des volcans, il ne faut pas s'attendre les éboulements des terres, il ne faut pas s'attendre que les eaux se débordent de leurs lits pour penser justement à l'extension de certaines villes, de certains quartiers. Donc il faut déjà s'atteler de maintenant, et je crois que le plus tôt sera le mieux, c'est notre population qui sera finalement bénéficiaire. Et donc voilà, c'est les autres.
Merci beaucoup, Christian. Vous avez d'abord dit qu'une question sur la question des ressources, vous dites, mais pourquoi ne pas exploiter les gaz méthane sur les lacs Kivu, et les revenus de cette exploitation peuvent nous servir à pouvoir financer, que ce soit la construction de l'extension de la ville de Goma. Mais vous avez aussi évoqué les possibilités pour l'État de construire des logements type moderne, type adapté au sol, et que la population paye payer cela à long terme, comme on l'a vu, avec ONEL, avec les fonds d'avance. Mais la question des catastrophes naturelles, vous l'avez dit, il ne faut pas attendre seulement quand il y en aura pour qu'on puisse réfléchir. On voit ce qui s'est passé à Uvira dernièrement avec les débordements du lac Tanganyika. On voit les glissements des terrains à Bukavu avec les dégâts que ça commet. Ici à Kinshasa avec les inondations, les érosions. Ça dit que nos villes sont confrontées à autant de problèmes qui demandent à ce qu'on réfléchisse en amont avant qu'il y ait une catastrophe naturelle. Merci beaucoup. François, vous êtes à Ilebo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot et le Mège, grand collègue de la plume, et bonjour, madame, avec tout le monde qui est avec vous au studio, monsieur Pierrot et le Mège.
Merci beaucoup, on vous écoute par rapport à cette question.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot et le Mège, une fois de plus. Je pense que, pour sauvegarder les vies humaines, de génération en génération, pour moi, l'essentiel serait que les services de l'urbanisme, les services de l'habitat, les affaires foncières et l'aménagement du territoire, quand je parle de l'aménagement du territoire, là, je vois son Excellence, Monsieur le ministre national, que j'aime bien, Guy Luano, puisse étudier minutieusement tous les paramètres pour la réussite totale de cette délocalisation, vous voulez dire, et veiller aux meilleures constructions. C'est-à-dire quoi? Si j'ai cité tous ces services de l'État ici, parce que moi-même, je suis agent de l'État, vous le savez, je suis recevé à la DGCAS, il fallait que les services, comme je les ai cités là, urbanisme, services d'habitat, affaires foncières, ainsi que l'aménagement du territoire, puissent étudier minutieusement localisation ici et étudier les paramètres des meilleures constructions. Il y a des constructions anarchiques que nous voyons dans d'autres endroits qui créent des érosions par-ci par-là. Et aujourd'hui, vous savez, la forte population, la forte densité qu'à l'est, si on déplace plus d'un million de la population qui réside au niveau de la ville de Goma, vers par exemple les Sake 1, Sake 2, il faut prévoir, il faut planifier un espace meilleur qui ne pourra pas encore engendrer des problèmes d'érosion pour commencer encore à faire des bruits au gouvernement ou au gouverneur qui a des problèmes d'érosion, les politiques n'interviennent pas. Donc, moi, j'aurais aimé le fait que le gouvernement puisse s'atteler à travers ces services dont j'ai fait la vision à une meilleure planification, à une meilleure conception avant que la délocalisation puisse avoir lieu, Monsieur Pierrot et la mairie.
Merci beaucoup, François. Et nous revenons encore sur la possibilité de l'extension. D'ailleurs, il y a Faustin Batey-Louondo qui nous écrit de Goma. Il dit, c'est bien de penser à cela, mais j'ai peur, ce sont ces mots qu'il utilise sur la page Facebook, ces projets risquent de mourir dans les territoires du gouvernement pour des années et des années. On peut bien penser, parce qu'il y a eu un danger imminent, on peut penser à ça, mais ça risque de prendre beaucoup de temps dans les tiroirs. C'est le point de vue aussi qui est développé par Maître Benjamin Kalumba. Lui, il nous écrit de Kisangani. Il dit, c'est bien, mais aller à Sake pour construire, extendre une partie de la ville de Goma, c'est bien. Mais la question sécuritaire, elle est très importante parce que vous savez que beaucoup de gens quittent les milieux ruraux pour venir se réfugier dans les grandes villes où ils estiment qu'ils sont en sécurité. Franck, merci de nous avoir rejoints. Le débat sur la possibilité d'extendre une partie de la ville de Goma, les préalables pour y arriver. Bonjour Franck.
Bonjour à votre ami Pierrot, bonjour à mes invités, s'il est avec vous, aux amis qui se sont déjà exprimés et à tous vos collègues au studio.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je crois que par rapport à cette thématique, il s'agit d'une planification dans l'avenir. Je ne sais pas la durée, ça va s'exécuter à partir de quel moment, mais... En lisant seulement le plan en soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de prendre des dispositions en amont pour éviter encore qu'on se retrouve dans les mêmes situations qu'on est en train de déployer maintenant. Ça, c'est une intention. Mais le problème que nous avons chez nous, mon ami Pierrot, c'est la matérialisation. On planifie, on annonce, on fait des suggestions et après, la planification et les suggestions vont se retrouver dans des tiroirs, des offices quelque part et après, personne ne va en parler. Mais pour le moment, personnellement, moi, j'essaierai d'abord curieux pour savoir est-ce qu'il y a d'abord un budget alloué pour ces travaux? Est-ce qu'on a étudié la faisabilité en temps? Ça va prendre combien de temps? Et ça va s'échelonner comment? Parce que on nous a tellement donné des promesses, on a tellement planifié, il y a des urgences par-ci, par-là. Mais la question, c'est aussi de savoir, mais est-ce qu'il y a d'abord un paquet budgétaire prévu pour ça? Ce sont pour moi des questions assez techniques, des aspects vraiment techniques internes qu'il faut avoir à main avant d'argumenter, d'objecter, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais l'intention en soi de planifier à étendre la ville d'un autre côté, je vois ça qui est 2 et ça qui est 3, c'est pas mauvais personnellement, je n'ai jamais été dans la ville de Goma, je ne peux que parler pour les biais de nos compatriotes qui sont là-bas, mais la question que je me pose, est-ce qu'il y a d'abord un budget alloué pour ça? Est-ce que le gouvernement a prévu quelque chose? Ça va s'exécuter dans combien de temps? C'est après une année, 2 ans, les travaux vont durer combien de temps? Et ainsi de suite. Mais sinon, on risquerait encore...
Alors, sans prendre la place du après, gouvernement, je rappelle encore que Franck... Rien. Oui, comme Franck, toujours. Si vous avez vu sur notre page Facebook, nous avons quand même rappelé que la semaine passée, il y a eu ces forums qui réunit le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec des services spécialisés, parce que le gouvernement est engagé dans le programme de développement urbain de quelques villes de la RDC. Ce programme est financé par la Banque mondiale. Ça, c'est le programme de réflexion, de plan, tout ça. Et dans ces programmes, dans ces discussions, les experts ont estimé qu'il faut aussi inclure la ville de Goma, compte tenu de ce qui est arrivé, quitte à réfléchir dans le temps, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Même si vous rappellerez le point de presse du chef de l'État à Goma, il est revenu aussi sur cette possibilité de pouvoir extendre la ville de Goma. Il a même dit, le chef de l'État a dit, c'est dans le futur, on ne sait pas, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais la question que vous posez sur la possibilité de la budgétisation d'un tel projet, et ça c'est une question très importante, l'invité l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas penser à extendre une ville si on ne peut pas mettre en place de moyens financiers nécessaires pour avoir des villes qui répondent vraiment aux normes. Hein. Merci beaucoup Franck. On va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, Je salue d'abord Franck, je viens de l'écouter en passant. Monsieur le journaliste, généralement dans les pays où les normes d'urbanisme et de l'aménagement du territoire sont d'observance, les constructions de chaque millier doivent impérativement correspondre aux réalités environnementales. Donc ça, c'est, on ne doit pas construire de manière vague, on doit tenir compte des conditions environnementales à ces milliers là ou à cette entité dont la construction est faite. Alors, à ce titre, le projet de construction de les stations de la ville de Goma, dont l'avenir est bon, et est bon dans le sens que elle viserait bien sûr d'épargner un peu, d'éloigner la population de Goma aux dangers volcaniques imminents, y compris les effets collatéraux, comme nous avons vu et nous avons d'ailleurs soulevé beaucoup d'aspects dans les émissions précédentes. Alors, à mon avis, il incombe premièrement à l'État congolais de mobiliser des moyens, je pense que Franck est revenu là-dessus, de mobiliser des moyens indispensables pour bâtir cette station de la ville de Goma, et selon les conditions des standards internationaux. Et en deuxième lieu, la République démocratique du Congo doit créer des conditions de viabilité en fait d'endiguer la population vers ces stations, parce que si on ne crée pas des conditions et qu'on ne met pas l'électricité, l'eau est difficile, comme nous voyons. Et il y a même des plancés, des sinistrés qui sont allés là, ils sont affrontés au problème d'eau. Il faut que ces conditions soient vraiment au rendez-vous en fait d'enduler la population. En troisième lieu, les gouvernants de la RDC doivent connecter cette station déjà avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système d'enclavement. C'est ce qui fait que les gens ne veulent plus habiter dans des villages. Il faut désenclaver. Avec le désenclavement, on peut automatiquement... Les gens peuvent habiter dans un coin ou dans un autre, même s'ils n'habitent pas dans des villes traditionnelles. Ils sont en interconnexion, ça c'est parmi les moyens. Et en quatrième lieu, et à travers le ministère de l'urbanisme et habitants, on doit créer, ces ministères-là doivent lancer d'abord l'offre pour que les gens qui vont reconstruire ces stations, parce que c'est l'État qui doit d'abord commencer à construire. Et dans bien des cas, c'est l'État qui commence la construction. Maintenant, il faut que l'État puisse lancer l'offre et on puisse recruter des gens qui sont des experts.
Voilà, là c'est exactement dans l'opérationnalisation de... Merci beaucoup Marie-Paul, ça c'est vraiment dans l'opérationnalisation si jamais on y arrivait. Merci à vous tous qui avez vraiment réfléchi autour de cette question. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous donnons la parole à notre invité Monsieur Julien Paloukou pour ramasser encore les quelques réactions des auditeurs et conclure cet échange. La réflexion est ouverte, elle est très très intéressante et nous la poursuivons d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
Oui, je voudrais saluer tous les intervenants avec leurs pertinentes interventions. Et je note que effectivement la préoccupation elle est générale, parce que personne ne voudrait voir demain la ville de Goma être décimée, sa population également. Donc l'extension de la ville de Goma est une nécessité, mais il appartient au gouvernement de faire le choix entre les endroits qui ne sont pas la cible de la prochaine coulée de lave. C'est pourquoi j'ai, moi, évacué ça que dans les choix qui devraient être opérés par le gouvernement, parce que c'est aussi la cible de la prochaine coulée volcanique. Je note également que les débats soulevés par les intervenants évoquent un autre débat, celui de la création des villes. Si vous voyez l'histoire des villes congolaises, effectivement, les villes congolaises se sont créées par elles-mêmes et l'État ne leur a conféré que le statut de ville après. C'est ce qui fait effectivement que les normes d'urbanisation ne sont pas respectées. Il n'y a aucune ville, sauf peut-être Kinshasa à l'époque, qui avait été créée par les colons, où on y a construit quelques infrastructures. J'ai déjà été à Kananga aussi, on a senti que là, il y a un bâtiment administratif qui avait été construit à l'époque. Mais toutes les villes se sont créées par elles-mêmes, et l'État n'a fait que le constat et leur conférer le statut de ville après. Et c'est ça la problématique que soulèvent beaucoup de villes africaines. Ça fait que les villes se créent, les gens arrivent dans un endroit, ils deviennent nombreux, et l'État constate qu'ils sont déjà plus de 100 000 et érige cet espace-là en ville. Alors vous pouvez passer dans, je ne vais pas citer pour ne pas froisser certaines sensibilités, dans toutes les villes qui sont connues de par la République, vous trouverez qu'il n'y a aucun plan d'urbanisation, vous trouverez qu'il n'y a pas de rue, vous trouverez qu'il n'y a pas d'espace vert, vous trouverez qu'il n'y a pas d'espace réservé aux écoles, réservé à ceci, réservé au stade, réservé... Donc, ça c'est la problématique générale des villes congolaises. Maintenant, s'agissant de la ville de Goma, qui est sous menace de l'éruption volcanique, je note que tous les intervenants ont peur qu'effectivement la population ne puisse être soumise à cette prochaine catastrophe et que l'on convient ensemble avec tous les intervenants qu'il faut étendre la ville.
Merci.
Mais là, il appartiendra au gouvernement de choisir entre Rutshuru, entre Butembo, entre Beni, faire le choix de l'une de ces villes-là qui sont déjà créées à l'époque pour savoir si on peut délocaliser, disons, si on peut étendre la ville de Goma vers là. Mais je note en dernier lieu que la meilleure façon de protéger la ville de Goma, c'est de créer les conditions dans les environs de Goma, créer les conditions dans les espaces qui entourent Goma pour empêcher que la population ne puisse glisser vers Goma à la suite de l'insécurité qui y sévit ou des conditions déplorables.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Julien Paloukou, d'avoir partagé avec les auditeurs cette question. Vous êtes notable de la province du Nord Kivu. Merci aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Jocelyne Mukendi. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiokapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.